Bonjour à tous. Amandine Glevarec est une indépendante touche-à-tout. Écrire, communiquer, partager sa passion pour la littérature, tel est son quotidien. Cécile Liège, quant à elle, est tout aussi active, productrice sonore. Elle a créé le Sonographe à Cholet autour de l'idée, dit-elle, qu'enregistrer la voix des gens permet de plonger dans leur univers en restituant l'authenticité de leurs émotions. Elles ont accepté toutes deux de répondre à quelques questions sur ce qui nous réunit actuellement, le confinement. Si Cécile a collaboré avec Alternante il y a quelques années, Amandine anime aujourd'hui deux de nos émissions, Voyage au bout du livre et Stop, l'émission consacrée aux violences faites aux femmes. Nous les remercions pour leur libre participation.
Mon cher Daniel, j'ai décidé de te parler à toi parce que tu m'envoies des questions, puis en te parlant à toi, ça m'enlèvera un petit peu cette impression étrange d'être en train de parler toute seule à 3h du matin dans ma chambre. Mais en tous les cas, merci de m'avoir posé ces questions. C'est une démarche très intime, évidemment, parce que c'est un événement qui nous touche tous, mais qui nous touche tous de façon particulière, ce confinement qui nous est imposé depuis le 17 mars et qui devrait finir par prendre fin quasiment après 2 mois après avoir commencé. Donc c'est quand même une période dans une vie, c'est pas anodin. Donc qu'est-ce qu'on en tire? C'est une bonne question. Tu m'as demandé comment je vivais ce confinement. Bon, pour répondre très simplement, en argotant un petit peu, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul confinement. Il y a eu effectivement quasiment... C'est fou, quasiment 50 jours, 55 jours de confinement, donc c'est autant de confinement, j'aurais tendance à dire. Les journées se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Est-ce qu'il y a une logique dans tout ça? Je sais pas. Très vite, je me suis dit qu'il fallait pas accumuler les jours non plus, ni voir en semaine, parce que c'était beaucoup trop gros pour l'esprit humain. Bien que le premier confinement annoncé était de 15 jours, puis avec un renouvellement de 15 jours, donc ça commençait à faire un mois, c'était beaucoup, en me disant step by step, comme c'est une maxime à laquelle je reviens souvent, c'est toujours plus confortable de penser avec des petites structures. Comme je suis une fille assez organisée, je peux remonter le temps en suivant mon fil Facebook, donc c'est pas mal. Ça me permet de me remémorer aussi dans quel état d'esprit j'étais au fur et à mesure de ce confinement. Le premier post le concernant date du 16 mars, donc tu vois, j'avais un tout petit peu prévu mon truc déjà, bien organisé comme d'habitude. Et là, je m'étais créé une méthode pour rester zen en étant enfermée à la maison, que j'ai partagée avec mes amis virtuels sur différents supports, avec je l'espère, une audience qui aura peut-être permis à certains d'avoir un ou deux trucs pour affronter ce qui nous est arrivé. La première piste, c'était se couper des sources d'informations erronées et anxiogènes. Ça, j'ai vraiment essayé de le faire, c'est-à-dire que je me suis vraiment consacrée à une source d'information qui est Ouest France, d'ailleurs, je vais le dire très clairement, puisque je suis abonnée, donc je le reçois tous les matins, en essayant de ne pas partir à la pêche aux infos, parce que ça peut vite, effectivement, prendre des proportions pas possibles, surtout qu'on a bien vu que tout le monde a commencé très rapidement à se contredire. Est-ce qu'il fallait s'inquiéter, pas s'inquiéter? Est-ce que c'était une maladie grave ou pas grave? Est-ce que ça allait aller de mal en pis? Est-ce que ça allait toucher tout le monde? Est-ce que, et à un moment, y a tellement de questions qu'on n'a pas de réponse, et plus on s'en pose, et plus tout ça devient confus. Je pense qu'on était déjà dans une situation confuse. Donc ça, vraiment, j'ai essayé de m'y tenir. Ou alors, quand il y avait des articles qui étaient relayés assez pertinents avec des sources d'informations que je connaissais, parce que ça, c'est toujours important aussi sur Internet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de journaux, de sites internet dont on ne connaît pas du tout la provenance, il faut vraiment se méfier de ça. Donc voilà, ça c'était la première piste. La deuxième, c'était de rester disponible par téléphone pour les amis et les amours, évidemment, qui avaient un coup de bambou, parce que tout ça, ça nous a touchés surtout d'un point de vue émotionnel, je crois, en fait. Ça a été beaucoup d'émotions très fort, très vite et très douloureux aussi, évidemment. Et c'est un petit peu en lien avec un deuxième post que j'avais fait juste après, qui est quelque chose auquel je me réfère souvent quand j'ai un pépin dans ma vie. En fait, c'est tout simplement et tout concrètement l'échelle du deuil, c'est-à-dire les étapes par lesquelles on passe quand on est dans un deuil. Et là, finalement, ce confinement est un deuil, le deuil de notre vie, le deuil de notre avenir, le deuil de nos certitudes, le deuil de nous aussi, parce que forcément, ça nous a confrontés à la peur de mourir. Donc voilà, je sais que dans ces cas-là, c'est très psychologiquement parlant, c'est rassurant de le savoir aussi. On passe par différentes phases, on peut revenir en arrière, on peut avancer d'un coup, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. On va passer par le déni, on va passer par la colère, on va passer par la tristesse. C'est des sentiments et c'est tout à fait normal de les éprouver, et c'est même bon de les laisser passer. La troisième piste que j'avais que j'ai mise, c'était reprendre le travail, s'inventer un travail intellectuel, parce que ça permet aussi peut-être de sortir du monde. Et puis que, voilà, je suis une littéraire, moi la littérature ça a toujours été là. Je sais que ça a été difficile au début pour beaucoup de gens, effectivement, de travailler, d'avoir une activité qui nous enlevait un petit peu de la vue des écrans où tout va si vite et tout le temps en fait. Donc reprendre un bouquin, plonger dans une histoire qui peut en plus paraître absurde, parce que finalement c'est un peu ce qui m'épate en tant que littéraire, mais il n'y a aucun livre, à part certains bouquins de science-fiction, qui ne pouvaient anticiper ce qu'on allait vivre. Donc c'est se dire aussi que bah, il y a peut-être des livres qui sont périmés, parce que voilà, c'est. Donc ça c'était pour une littéraire un questionnement qui continue de me fasciner, et je pense que voilà, je vais essayer de le poursuivre. Mais la littérature m'a fait du bien, beaucoup de bien, même si évidemment j'ai lu que des bouquins que j'aurais certainement pas dû lire. Donc j'ai notamment commencé par Nuit de Eisenhardt. Donc ça parle quand même de la vie d'un homme dans un ghetto juif. Voilà, c'est pas spécialement réjouissant. Et puis en plus ça dit beaucoup sur l'être humain aussi, parce que ce ghetto où ils sont enfermés, au début il y a de la solidarité, et puis plus ça va, plus l'homme ne devient plus humain en fait. Donc c'est terrifiant. Je sais pas pourquoi j'ai lu un bouquin comme ça, mais en même temps je crois que c'est l'un des plus grands livres que j'ai jamais lu de ma vie, et un livre dont je sortirai jamais, parce que ça m'a fait vraiment réfléchir, en plus à entrer en résonance. J'ai lu pas mal de choses aussi tant que j'y étais sur la Shoah, toujours, j'ai continué, donc voilà. Mais ça, c'est quand même des bouquins qui éveillaient à une réflexion, et qui me permettaient aussi peut-être de prendre à distance, et aussi peut-être de me dire que ce qu'on vivait finalement avait non pas été vécu par d'autres, mais avait en tous les cas éveillé en nous, on l'a vu très vite, hein, des comportements nocifs. On a vu la délation apparaître très vite, enfin des choses qui sont difficilement conciliables avec l'idée que je peux avoir. Des gens, et puis qui finalement ont toujours été là de tout temps, de tout lieu, et qui font partie de notre nature. Et puis on en revient toujours à cette peur de mourir qui peut effectivement éveiller des choses qui sont pas très louables, mais c'est comme ça. Et puis c'est aussi ça de grandir, d'avancer en âge, aussi de se rendre compte que le monde n'est pas tout blanc ou tout noir, qu'il y a un peu plus que 50 nuances de gris, mais voilà. Et ma quatrième piste, c'était se rappeler que le printemps est devant nous. Ben, on y est en plein dans le printemps, on y est toujours confiné, on a eu de la chance, on a eu du beau temps, mais une petite touche d'espoir aussi, parce que la vie continue et que le monde va continuer de tourner, même si pour nous, il s'est non pas arrêté, mais s'il a complètement changé de face du jour au lendemain. Donc ça, c'était vraiment voilà, mon manuel de survie auquel je me suis référée souvent, que j'ai essayé de ne pas perdre de vue, et qui m'a aidée à me guider dans ces 2 mois, on va arrondir, à 2 mois, dans ces 2 mois qui ont été plein de questions. Donc tu me demandes aussi comment ce confinement s'est passé familialement. La réponse est très simple, semble très simple, puisque je vis seule, donc la famille, il n'y en a pas. Je suis toute seule dans mon petit lit comme une grande. La solitude, par contre, ça éveille quand même aussi évidemment d'autres questionnements auxquels je m'étais confrontée auparavant, parce que ça fait 2 ans et demi que j'ai pris pour la première fois de ma vie. À l'âge honorable de 37 ans et demi, un appartement où le bail est à mon nom seul, donc que je ne partage qu'avec moi-même. Et donc la solitude, c'est quelque chose que j'ai apprivoisé depuis un moment. Par contre, je me souviens aussi des affres dans lesquelles elle a pu me plonger au début. Donc ces sentiments de ne pas exister, ce sentiment d'être un grain de sable sur la plage. Et j'ai très vite aussi pensé effectivement à ceux qui était confronté, sans que ça soit un choix comme ça avait pu être de mon côté, et toute la violence que ça a pu éveiller. Donc j'ai essayé de rester attentive à ce que je pouvais aider avec ma maigre expérience, mais en tous les cas avec ce que j'avais pu essayer de vivre. Et puis voilà, en fait, voilà. Bon, en tous les cas, c'est pas un problème pour moi d'être seule, surtout qu'il y a 2 ans et demi, j'ai aussi effectivement fait le choix Ce qui va rebondir sur ta deuxième question, j'ai effectivement fait le choix de passer en indépendante, donc de quitter le salariat, de quitter un groupe de travail avec une hiérarchie pour voir ce que toute seule je pouvais donner. Donc ça, tout ça, c'est pareil, c'est pas des choses qui se décident, enfin c'est des choses qui se décident très vite ou qui s'imposent très vite, mais c'est des choses auxquelles on finit pas de réfléchir parce que ça éveille beaucoup de problématiques aussi, comment être indépendante, comment assurer sur tous les points de vue, c'est-à-dire voilà, il faut assurer pour démarcher, il faut assurer pour produire, il faut assurer pour gérer sa comptabilité, il faut assurer pour être gérer les administrations, ce qui n'a pas été spécialement une partie de plaisir. Enfin voilà, ça a été beaucoup d'armes, en tous les cas, que j'avais pu développer au cours des dernières années, qui m'ont certainement aidée. Et c'est vrai que c'est une idée que j'ai eue aussi assez rapidement, de me dire que les indépendants, finalement, on était peut-être les mieux armés pour affronter ce qui se passait. Alors, pas les plus soutenus, hein, attention, parce qu'effectivement, on a bien vu qu'au point de vue des aides, ça a quand même pas été, ça n'a pas été toujours facile, ça ne l'est toujours pas d'ailleurs, mais on a en tous les cas certainement une habitude de travailler soit seul, soit pour soi, de travailler chez soi, pour beaucoup. Voilà, bon, j'ai pensé à tous les commerçants, artisans, indépendants au sens large. Voilà, donc ces armes-là, quelque part, je les avais et je les ai utilisées au quotidien. Voilà. Professionnellement, ça n'a pas été compliqué puisque je travaille dans plusieurs domaines. Donc, tout ce qui était activité sociale, bah, ont disparu tout de suite, que ce soit la radio avec toi, avec les émissions qu'on anime ensemble autour des violences faites aux femmes, que ce soit la librairie qui, évidemment, a fermé les portes très rapidement, que ce soit le journalisme, parce que interviewer des gens, quand on ne peut pas les rencontrer, ça pose des problèmes. Après, c'est un petit peu ma chance, c'est que j'avais des activités qui sont assez diverses, dont certaines qui se passent vraiment toute seule, c'est-à-dire notamment l'écriture, avec des textes plus ou moins longs. Donc ça, j'ai pu conserver. J'avais de quoi faire encore, mais les employeurs ont été réactifs et ont continué à me donner du travail. D'ailleurs, il y a d'autres employeurs qui se sont manifestés aussi pour me donner d'autres pistes de travail et d'autres activités. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'avoue que les difficultés de concentration que j'ai pu rencontrer au début ont été vraiment, enfin, sont vraiment améliorées parce que là, j'avais une responsabilité. Il fallait que j'assure. Donc, j'ai été obligée de m'y remettre tout simplement. Et ça a été un déclencheur. Donc, je remercie infiniment les gens qui m'ont confié du travail à point nommé et qui ont pensé tout de suite que voilà, au-delà de l'aspect financier, que j'avais besoin d'avoir des projets tout simplement, parce qu'il faut aussi pouvoir se reprojeter. Ça a été aussi intéressant au niveau professionnel sur le troisième type d'activité, c'est-à-dire les activités qui étaient sociales. Par exemple, je pense notamment à l'atelier d'écriture que j'anime et qui a pu évoluer, c'est-à-dire qu'on est habitué à se rencontrer à peu près tous les 15 jours, on se voit en vrai. Là, l'idée très vite a émergé et je remercie aussi la Plume et le Clavier qui est mon employeur. Qui a très vite pris la mesure de ce qui allait se passer et qui a très vite trouvé aussi une solution pour qu'on puisse partir sur du numérique, tout simplement, même si ce n'est qu'un pis-aller et que voilà, on aura eu plusieurs séances comme ça et que c'est très sympa. On a passé des bons moments à se revoir, ça faisait vraiment plaisir, mais ça ne remplace pas en tous les cas les vrais contacts et puis les vrais sourires et puis voilà, tout ça. Mais c'était en tous les cas une activité qui a pu continuer et dans ces moments où effectivement on peut paniquer aussi pour des raisons financières, eh bien ça fait du bien d'avoir des employeurs qui se manifestent et puis qui sont très rassurants et qui sont dans une bonne dynamique. Voilà, c'était ça, tout ça, ça a été un non pas un moment de bonheur, mais en tous les cas ça m'a vraiment permis de supporter avec le moindre mal, on va dire, ce confinement. Quel regard est-ce que je porte sur cette période exceptionnelle? Je crois qu'on est en train de vivre une crise, en fait, au sens philosophique du terme, on va dire, et qu'une crise met en exergue les bonnes choses, ce qui fonctionne. Donc là, on a quand même vu qu'il y avait des choses qui fonctionnaient Et ça m'impressionne, ça m'a vraiment, je trouve ça toujours fou de pouvoir appuyer sur un bouton et d'avoir de l'électricité alors qu'on se dit que le pays est paralysé depuis 2 mois. Je trouve ça fabuleux. Je remercierai vraiment jamais assez tous les gens qui ont continué de travailler pour, on appelle ça des métiers de service, mais effectivement, là, c'était vraiment nous rendre service, mais c'est aussi ceux qui ont continué à nous nourrir, c'est ceux qui ont continué à ce que les choses puissent se dérouler plus ou moins normalement dans une certaine mesure. Donc ça, je trouve que pour le positif, puis il y a des belles choses qui ont émergé aussi, des solidarités, j'ai trouvé que c'était vraiment... voilà, donc la crise a permis ça, en tous les cas, de voir ce qui fonctionnait, ça a aussi permis de voir ce qui fonctionnait pas bien. et peut-être aussi qu'une crise permet de mettre en avant les qualités, les défauts. Pour en revenir à moi, même si j'aime pas trop ça, les qualités, effectivement, je vois que je suis organisée, que je sais gérer ma barque professionnellement parlant, en tous les cas, je sais m'auto-motiver, je m'auto-suffis à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Mon défaut principal, hormis l'impatience que je suis bien obligée de canaliser, c'est évidemment la colère, et la colère, c'est pas un mauvais signe chez moi, c'est plutôt de... le fait que l'énergie revienne, donc c'est sans doute l'émotion qui est en train de se manifester, la dernière, là, après toute une suite d'émotions particulières, et cette colère, il faut en faire quelque chose pour pas la retourner contre soi. Ce qui fonctionne pas, à mon sens, dans ce pays, et je parlerai juste de la France pour le coup, parce qu'on a bien vu effectivement, même si on a pu constater que les sources d'information de l'étranger n'étaient pas forcément faciles à obtenir non plus. Enfin, en tous les cas, en France, on a pu constater qu'il y avait quand même un vrai problème de relation avec notre gouvernement. Ma colère s'est concrétisée directement sur cette fichue attestation de sortie, parce que je crois qu'on a quand même vécu et qu'on est toujours en train de vivre quelque chose qui est extrêmement douloureux. Et le fait de nous infantiliser d'une part et de nous faire passer pour des idiots d'autre part, comme il a quand même été dit, que les Français ne sauraient pas évidemment se confiner parce que les Français sont des... je ne sais pas quoi d'ailleurs, des sales mômes, sans doute, il doit y avoir de ça. Donc on va leur imposer une attestation à remplir avec des motifs déjà fallacieux. Et puis on voit aussi, on continue de voir au jour le jour les abus que ça a pu provoquer de la part des représentants des forces de l'ordre, avec toutes les histoires qui vont juste saccager des vies, en fait. Donc ma colère, elle est devenue politique. Et je crois que ce confinement aura essentiellement éveillé en moi une vigilance par rapport à ce qu'on essaye de nous vendre, c'est ce qu'on essaye de nous faire passer, ce pourquoi on essaye de nous faire passer aussi. Et je crois que cette colère et cet éveil, en tous les cas vraiment politique, qui est une question que j'avais non pas mise de côté, mais finalement à laquelle j'avais jamais vraiment eu le temps de consacrer du temps au long de ces 40 années, ne va plus me quitter. Donc ça, c'est très clair. Je crois que j'y vois vraiment quelque chose de plutôt positif, en fait, de se dire qu'effectivement, on vit dans un ensemble de... dans un groupe qui est dirigé par des gens qu'on a élus, c'est ça le pire, et qui nous traite de cette façon. Voilà. Donc notre gouvernement, mais il a quand même pas hésité à enchaîner les bourdes, plus ou moins catastrophiques, en se contredisant, ce qui est quand même très fort déjà. C'est une seule voix. Je pense qu'on avait tous besoin d'être rassurés, plus ou moins, au moins rassurés sur le fait qu'on était gouverné par des gens qui savaient à peu près ce qu'ils faisaient. Voilà. La dernière en date de notre président qui nous dit que le 1er mai, c'est vrai que c'est un peu dommage, on ne va pas pouvoir aller se chamailler comme on le fait d'habitude. Je crois qu'il n'a vraiment pas tout à fait compris qui nous étions, en fait. Donc on n'est pas là pour se chamailler, on est là pour revendiquer nos droits, et on ne devrait pas avoir à le faire d'ailleurs, je parle bien de droits, avec des devoirs qu'on a, ils reviennent dessus, mais effectivement des devoirs qu'on a tous respectés, puisqu'on voit bien que le confinement, finalement, s'est bien passé, malgré l'image qu'on a pu balancer des Français. Donc voilà, tout ça, j'attends de voir comment ça évoluera pour après. Donc le monde d'après, Et c'est ta question d'après. Comment est-ce que je vois l'avenir? Je ne sais pas. Je pense qu'il va y avoir des gros chamboulements en tous les cas politiques. Ça, je le souhaite ardemment. Les Français ont fait preuve d'une belle solidarité. Ça, je crois que c'est aussi des choses qui vont continuer et qui ont aussi éveillé nos consciences, peut-être, sur la solitude de certains, sur le sort des personnes âgées, sur plein de choses qu'on était en train de faire. Voilà, on était tous en train de courir, on n'en prenait plus le temps de se poser la moindre question parce qu'il fallait toujours produire, 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 très, très, très simplement. Et puis, tu vois, ça, moi, l'avenir, c'est un peu. Il m'est arrivé un truc rigolo pendant ce confinement, c'est que j'ai eu un copain au téléphone, un copain que je connais depuis quelques années, et puis on n'arrive jamais à se voir, on n'arrive jamais à prendre un café, et ça fait des années qu'on se dit plusieurs fois dans l'année, il faut absolument qu'on prenne le temps de se boire un café. Ouais. Et on n'y arrive pas. Et ça fait 2 ans et demi que ça dure, quoi. Et là, je l'ai appelé pour un petit détail, et puis en fait, notre conversation qui aurait dû durer 10 minutes a duré 2 heures et demie. Ben, je me suis dit, on a pris le temps, c'était super bon. Ça restera certainement l'un de mes meilleurs souvenirs de ce confinement, parce que voilà, enfin, on était juste deux humains en train de discuter, on n'était plus en train d'essayer de remplir les trous. Donc peut-être qu'on va tous apprendre à profiter un tout petit peu plus de l'instant présent. De toute façon, c'est un peu ce vers quoi on tend, parce qu'effectivement, la difficulté à se projeter, c'est aussi une vraie question, c'est-à-dire que là, on peut pas savoir même où on sera dans 6 mois finalement. Alors c'est aussi une question que se posent beaucoup d'indépendants, hein. Ça fait partie de notre métier de pas savoir ce qu'on gagnera finalement l'année prochaine ou qui seront nos clients ou quelles tâches même on effectuera. Là, c'est à l'échelle un peu plus globale, donc ça peut être pas. Enfin, ça peut être assez fertile de remettre le curseur sur le moment présent. Et puis, ça, c'est quelque chose à laquelle je vais essayer de m'atteler, en tous les cas, et de vraiment résister à ce besoin de sécurité relatif, d'ailleurs, hein, on s'en rend bien compte, puisque rien n'est sécurisant et rien n'est sécurisé, puisque tout peut s'effondrer du jour au lendemain. Donc, juste apprendre à vivre avec ce qu'il y a, et puis ce qui n'empêche pas d'avoir l'énergie, d'avoir envie de faire des choses, la volonté d'entreprendre, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste réfléchir autrement. Ça sera peut-être. J'espère que le monde d'après sera voilà, un peu plus raisonnable aussi pour les humains que nous sommes. C'est-à-dire pas au service tout le temps d'une production, service de. Consommer, on n'est pas que des consommateurs, nous sommes aussi des consommateurs, parce qu'il faut aussi évidemment parler d'argent et il faut aussi parler de consommation. Elle peut être très bien raisonnée, elle peut être locale, elle peut être réfléchie totalement différemment. Moi, ça, voilà, j'ai envie de savoir à qui j'achète les choses que j'achète, qui est-ce que j'aide aussi. Voilà. Peut-être que cette crise nous a permis de comprendre qu'on était tous interdépendants finalement et qu'on pouvait peut-être se passer de certains intermédiaires. On l'a vu au niveau de l'État, je pense qu'il y a des mouvements solidaires qui se sont mis en place sans qu'on ait à recourir à l'appareil gouvernemental, justement. Donc, on a vu aussi, toujours d'un point de vue politique, qu'on peut s'unir sur Internet, qu'il existe d'autres moyens de communication. Donc ça, c'est des bonnes choses, mais on l'a vu, voilà, quand on est, ça c'est un peu le paradoxe du truc, mais quand on est confiné dans un quartier à 1 kilomètre de rayon, on ouvre aussi les yeux sur qui est près de soi, quoi. C'est-à-dire que mes commerçants, là, moi je suis vers Vierme, eh ben, je suis contente de les voir réouvrir les uns après les autres, je suis contente de les croiser et de leur demander comment ça va, je suis contente de savoir comment vont mes voisins, en fait, une question que je ne me serais pas forcément posée dans le monde d'avant, puisqu'il va falloir dire qu'il y a un monde d'avant et un monde d'après, ça j'en suis intimement convaincue. Donc voilà, peut-être réfléchir un petit peu plus à ce qui nous fait du bien, en tous les cas. Donc, tu me demandes pour finir si ce confinement aura une répercussion sur mon travail. J'en sais rien. C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer, c'est que je n'en sais rien, et puis je ne vais pas dire que ça m'inquiète pas, je voulais pas dire que je m'en fiche, c'est absolument pas ça. C'est ce que j'en conclus de tout ça, c'est que on a des capacités d'adaptation qui sont formidables. On peut s'adapter, on peut trouver des solutions, il y a toujours des solutions. Et quoi qu'il adviendra, bah voilà, on s'en sortira ensemble. Donc c'est un message plutôt positif que j'ai envie de passer. Donc la répercussion sur mon travail, ça m'a certainement confirmé que j'aimais l'indépendance, que j'avais sûrement les armes pour ça. Et puis que je trouvais beaucoup de plaisir à effectuer ce que j'effectuais. Ça m'a aussi rappelé à quel point je suis une communicante et quand on me coupe du monde, même si évidemment avec les réseaux ou avec tout ça, on n'est jamais totalement isolé quand on a une identité numérique, mais ça remplace pas en fait juste de prendre un verre en terrasse, ça remplace pas tout ça. Donc ça, j'ai une grande soif de revivre aussi, tout simplement, ce qui fait certainement, ce qui nourrit aussi mon travail par la même occasion, donc de me nourrir des autres, c'est-à-dire que j'ai pas toutes les réponses et j'ai appris beaucoup et pendant ce temps aussi, ça m'a permis de m'ouvrir à des choses pareilles auxquelles j'avais pas totalement le temps de me consacrer, c'est-à-dire la philosophie notamment, à laquelle j'espère laisser une place, mais puis à apprendre à discuter sans s'énerver, apprendre à comprendre que quelqu'un va pas vivre la même chose de la même manière que toi, enfin, remettre tout ça un petit peu en perspective. Donc voilà, et puis voilà. Merci Daniel, je t'embrasse.
Alors, bonjour Daniel, je vais répondre à tes questions comme tu me l'as demandé sur le confinement. Donc là, je te réponds, je suis chez moi dans mon salon. Il y a tout un bazar autour de moi parce que j'ai mon enregistreur que j'ai sorti parce que j'essaie de faire des interviews par téléphone. Il y a mon agenda, mon cahier de notes, des bouquins. Voilà, c'est mon petit bazar, mes tongs. Voilà. Et donc, tu vois, je travaille de mon salon ou quelquefois je travaille dans la cuisine. Ça dépend si j'ai envie de voir mon jardin, si j'ai envie d'entendre le bruit du frigo ou pas, ou du lave-vaisselle. Là d'ailleurs, peut-être qu'on entend le bruit du lave-vaisselle en arrière-plan. Alors, tu me poses plusieurs questions, Daniel, donc je vais t'y répondre. Je vais te répondre. Comment vis-tu ce confinement familialement et professionnellement? Alors, les réponses, elles peuvent évoluer entre le début du confinement et maintenant, c'est peut-être un peu différent. Au départ, j'ai quand même pris ça, en dehors du contexte sanitaire, hein, qui était un peu anxiogène, comme quelque chose de plutôt salutaire, parce que je trouve que nos vies sont très très speed, voilà. Et je trouvais que tout d'un coup, le fait d'arrêter les deadlines, que l'espèce de temps suspendu, moi, ça m'a permis d'avoir moins de pression et de travailler pour le plaisir de travailler et non pas parce qu'il fallait rendre à ce moment-là les choses. Voilà, c'est peut-être mon rapport au travail qui se dessine là-dedans. Donc, j'ai quand même eu ça. Et du coup, dans ce temps suspendu, je m'autorise encore aujourd'hui, là, je le ressens bien, je m'autorise beaucoup plus à lire, à écouter beaucoup de choses, j'essaye moins d'être productive. Voilà, ça c'est plutôt agréable. Alors que je fais quand même des choses en lien avec mon travail, mais de façon, je sais pas, en tout cas, je m'autorise des choses, voilà, que peut-être je m'autorisais moins avant. Voilà, je déteste l'efficacité, mais je m'y astreins trop peut-être. Je m'autorise à ne pas être efficace et sans culpabiliser, et c'est très très agréable. Donc là, on va dire, voilà comment je le vis professionnellement. En plus, alors aussi, il se trouve que je travaille sur un projet qui s'appelle le quartier Inouï, sur un quartier à Cholet, pour lequel je travaille avec l'artiste Mathieu Delaunay, artiste sonore, sur la question du chez-soi. Et bon, bah là, on ne pouvait pas mieux tomber. Donc, d'un côté, on a annulé la résidence qu'on devait faire dans ce quartier-là. La troisième résidence devait se passer en avril. Mais du coup, on l'a fait sous une autre forme. Et j'ai fait des interviews par téléphone avec des habitants qui me racontaient cette expérience du chez-soi pendant le confinement. Donc, Bon, ça a plutôt été une opportunité, cette histoire, ça c'est pas mal. Voilà, après, pour continuer sur le professionnel, je ferai pas des interviews par téléphone tout le temps. Moi, j'aime bien voir les gens, ok, je fais un métier du son, mais j'ai besoin de voir les gens. J'aime le langage non-verbal, même si ma matière principale, c'est le langage verbal. je trouve aussi que c'est pas du tout la même question, la même façon de rentrer en contact avec les gens. Alors, quand on est au téléphone, ils nous connaissent pas. Moi, j'ose moins les engager dans une discussion intime parce que j'ai pas envie que les personnes raccrochent et se demandent à qui elles ont parlé, qu'est-ce qu'elles ont pu dire. C'est beaucoup plus facile d'établir, je trouve, un lien de confiance avec les gens quand on les voit en vrai, quand on est chez eux ou quand on a choisi ensemble un lieu pour se rencontrer. Donc ça, pour le coup, j'ai pas du tout envie que ça dure et je suis très très pressée de retourner sur le terrain pour voir les gens en chair et en os. Voilà. Après, sur le plan familial, bah écoute, on n'a pas une très grande maison, on n'a voilà, pas des super grands espaces, mais on a une maison déjà, on a un jardin, donc ça c'est vraiment chouette, enfin quand même, je pense qu'on fait partie des gens privilégiés, et puis moi j'ai de la chance parce que d'habitude mon compagnon travaille à l'extérieur et la semaine il n'est pas avec nous, et du coup à la faveur du confinement, il se trouve vivre avec nous, et bon voilà, moi je suis contente de gagner un amoureux dans cette histoire-là, voilà, donc on est ça c'est pas mal, et puis voilà, ça franchement, pareil, on serait content de retrouver les copains, de sortir, etc., mais on est pas malheureux et puis on goûte aussi ces moments ensemble. Voilà, on fait plein de trucs ensemble. Deuxième question, c'était quelles sont tes réflexions sur ce moment exceptionnel ? Je sais pas si j'ai des... Ma première réflexion, c'est de me dire qu'elle révèle le monde tel qu'il est, mais en plus intense. Voilà, donc les choses sympas sont beaucoup plus sympa et plus forte. Par exemple, nous, ça nous a permis, j'habite dans une petite rue et on ne se connaissait pas tous dans cette rue, quelques-uns comme ça en se disant bonjour, certains vraiment on se croisait à peine. Et maintenant, on a ce rituel, quasiment tous les soirs, on se retrouve dans la rue, on discute en respectant les gestes barrières. Mais on apprend à se connaître et ça, c'est quand même super agréable, vraiment. Et puis on se rend compte à quel point nous sommes des animaux sociaux et que nous avons besoin de ce contact-là. Donc ça, c'est chouette. Le fait qu'aussi on s'est pas mal appelé avec des amis, de sentir ça. Et puis bon, on a vu aussi une créativité aussi qui s'est exprimée, sur les réseaux sociaux, sur les voilà, une solidarité, tout ça, ça c'est super. Voilà, on voit aussi que ça révèle aussi les choses beaucoup plus sombres. Bah ça révèle aussi la phase, tout ce qui est fracture sociale qui explose actuellement, et voilà, ça m'inquiète. Ça révèle que on ne sera pas plus capable de prendre des décisions, je pense, importantes pour notre relation à notre environnement dans les mois et années qui viennent. Malheureusement, je ne suis pas très optimiste là-dessus. Voilà, j'ai l'impression que la médiocrité est à peu près la même. Elle se voit juste plus maintenant. On le voit aussi dans l'espèce de concurrence politique qu'il peut y avoir. Voilà, donc je me dis juste que c'est le même monde, mais avec des contrastes peut-être plus forts. Voilà, je ne sais pas trop ce qui va sortir de tout ça. Est-ce que cette crise aura un impact sur mon métier et comment est-ce que je vois l'avenir de manière générale? Alors, sur l'avenir, je crois que j'ai un peu répondu dans la question précédente. Sur mon métier, ben oui, malheureusement, je pense que ça aura un impact. Moi, je suis intermittente du spectacle. Alors, je ne suis pas liée au spectacle même, puisque je travaille plutôt sur des productions. Mais voilà, et pour l'instant, je pense que je vais pouvoir maintenir mon statut parce que j'aurai assez travaillé avant ma date anniversaire. Tout sera juste, mais ça devrait passer. En revanche, je suis plus inquiète pour les mois et années à venir parce que moi, je vis de projets qui sont souvent financés par les collectivités, par les pouvoirs publics ou par des structures socio-culturelles. Voilà, je me dis que ces structures, je ne sais pas si elles auront toujours de l'argent pour faire des projets comme moi j'ai l'habitude de faire, qui sont plutôt des projets autour du social et de l'artistique. Voilà, donc oui, je suis un peu inquiète. Après, très honnêtement, je prends beaucoup de distance avec cette inquiétude parce que je me dis qu'il y aura beaucoup, beaucoup de secteurs où ce sera en crise, beaucoup, beaucoup, et que voilà, il va falloir être un peu solidaire et se décentrer aussi sur cette période et voir comment globalement tout ça peut être accompagné, pas seulement de ma fenêtre d'artiste. Voilà, bon, j'espère que j'ai répondu à tes questions. Je sais pas, peut-être que c'est pas facile de répondre tout seul parce que normalement dans un dialogue on est deux et les rebonds de l'autre nourrissent tes rebonds pourraient nourrir mes réponses et là du coup je me retrouve un peu toute seule. Voilà, tu vois, comme quoi la conclusion c'est ça, c'est que tout seul on tourne en rond et qu'on a vraiment 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 besoin des autres. Voilà, merci en tout cas pour cette curiosité de ta part, Daniel. J'espère te voir en vrai. Ciao.